À la base,
mais oui, c'est ça. Ça veut dire qu'en fait, c'est devenu quand même un phénomène de pop culture. Merci. Mais avant tout, c'est un jeu de société.
Exactement. À la base, c'est vraiment du jeu, le jeu de cartes, un jeu de société qui a été dérivé forcément avec de la collection. Mais maintenant, on retrouve beaucoup de decks, beaucoup de championnats, beaucoup de tournois, d'associations qui font toutes ces compétitions.
Sur ces fameux jeux, on voit qu'il y a des bourses d'échanges, tous ces trucs-là. C'est une vraie communauté, en fait, finalement, cette communauté Pokémon.
Bien sûr, on retrouve vraiment différents profils entre vraiment les collectionneurs, des personnes que nous, on sollicite au quotidien, qui, eux, ne font pas du tout de collection, mais qui sont accentués vraiment, vraiment sur le jeu, et la collection ne les intéresse pas. Donc, on a vraiment... tout type de personnes.
Oui, parce que ce qui est drôle, c'est qu'il y en a, c'est que la collection qui les intéresse, ça joue pas avec. Et presque à l'inverse, il y a des gens qui jouent et peu importe la collection, on fait juste un deck de gagne, quoi.
Ouais, c'est ça.
C'est ça l'idée,
c'est
quoi.
C'est exactement ça.
Alors, ces deux univers, ils sont en contact ou pas?
Ah, bien sûr, ils sont liés. Nous, par exemple, quand on fait quelques tournois, on se retrouve avec les mêmes personnes et forcément, on va échanger entre joueurs.
Justement sur ces questions de jeux et de Pokémon, il y a aussi tout ce qui est animé, manga, enfin il y a tout un univers de j'ai envie de dire de séries et de films qui existent autour, de jeux vidéo également. On parlait tout à l'heure avant d'arriver sur l'antenne là du Pokémon Go là, qui a été une grande révolution, d'aller chercher des Pokémon dans la vraie vie, dans les lieux publics. Il y a un lien dans tout ça où on est vraiment sur des secteurs très différents?
Non, tout est lié. Alors c'est dommage, il n'est pas là actuellement, mais on a un ambassadeur Pokémon Go donc qui aurait pu un peu expliquer un peu le concept et puis tout l'univers, mais tout le monde reste lié par la même entité qui est Pokémon.
Alors Damien, il voulait intervenir, lui, il a vu tous les dessins animés.
Alors moi, bizarrement, non, je suis pas du tout fan. Je n'aime pas du tout. J'ai vu le premier au cinéma, j'étais animateur de centre de loisirs, je vous raconte ma vie. Il était flingué, il était vilain, les effets étaient moches. J'ai vu un plus récent et c'était sympa en animé, ça doit être le dernier qui était sorti en cinéma, avec Sacha. C'est ça, je dis pas de bêtises, hein, je suis pas spécialiste. Ça. Moi, une question, camarade. Quand on vient te voir pour évaluer peut-être une carte, qu'est-ce que tu vas utiliser? De quoi vas-tu te servir? Est-ce qu'il y a des livres références qui vont te permettre de savoir à combien a été éditée cette carte, vérifier l'année? Enfin bref, comment juge-t-on de la valeur d'une carte? De quoi se sert-on? De quels éléments et de quel outil?
Bah nous, on va beaucoup utiliser, il y a beaucoup d'applications, de sites internet. Les deux essentiels, on va beaucoup utiliser, c'est Card Market, où il y a énormément de ventes de cartes, et en fait on se base essentiellement sur ces cotes là alors on reste pas uniquement avec un site, parce que on appelle ça les scalpers. Je pense que
c'est quoi un scalper?
C'est ce qui tue un peu la communauté, c'est-à-dire que quand il y a des sorties d'items qui sont annoncés par Pokémon, on va se retrouver avec des personnes qui vont envahir les magasins et acheter le plus de stock possible pour revendre plus cher.
D'accord.
Et alors ça spécule même en fait dans du Pokémon.
Ça spécule dans tout, hein, les chaussures de sport, c'est pareil, t'en as au pied, c'est un peu le même business. Et deuxième chose, le marché, je veux bien Jacob aussi ton regard, et toi le spécialiste, mais toi aussi Jacob, le marché de la fausse carte, de la triche, de la contrefaçon. Aujourd'hui, il y a 10 ans, je pense que c'était très grillé de les repérer. Est-ce que on peut se mettre d'accord sur le fait qu'aujourd'hui ça devient un peu compliqué? Vous utilisez peut-être des loupes parfois, ou alors Pokémon la licence utilise de nouveaux recours pour essayer de bien contrer la chose, parce que est-ce que c'est présent, est-ce que ça inonde le marché, on est comment sur la fausse carte?
Bah à l'époque on pouvait facilement remarquer une fausse carte car elle avait les couleurs de derrière qui étaient légèrement abusées, par exemple un bleu qui était beaucoup trop bleu. Actuellement je ne sais pas du tout comment ça marche, mais je ne crois pas qu'il y ait un système comme à la Yu-Gi-Oh! Où sur les vraies cartes il y a un sticker personnalisé qui ne peut pas être copié. Donc actuellement je ne pourrais pas dire.
Alors effectivement, il n'y a pas de système à proprement dit pour vraiment...
C'est l'expérience ?
Ouais, en fait c'est vraiment l'expérience et on profite justement, sur les bourses, pour sensibiliser beaucoup les personnes, et c'est très souvent avec les enfants en fait. Pour les Noëls, etc., les parents vont aller acheter sur Amazon, toutes ces plateformes-là en fait, Amazon, Wish et tout ce qui va avec. la majorité du temps sont des fausses cartes. Alors on va les reconnaître avec l'expérience, effectivement, d'un coup d'œil on le voit tout de suite, c'est flagrant.
L'arrivée des cartes Disney, c'était un point positif parce qu'elles avaient l'air jolies. Est-ce que ça a un autre monde, ça touche d'autres personnes, ou est-ce qu'au contraire ça contribue à la démarche et la collection, l'aspect collection?
Ouais, c'est un autre univers. Donc les personnes qui sont vraiment fans de Disney, je pense, se sont lancées sur cette collection là. Nous, pour la petite anecdote, ma femme est fan de Disney, mais c'est pas pour autant qu'elle collectionne. Mais un plaisir pour notre fille qui est plus jeune, quand on est dans l'univers Pokémon, de cartes à collectionner, de temps en temps ça nous arrive d'acheter quelques paquets comme ça.
J'ai une dernière question, est-ce que tu arrives à mesurer le nombre de cartes que tu as dans ta collection? Parce que moi, si on me demande le nombre de paires de baskets ou de disques vinyle, je suis incapable de te répondre.
C'est la même. Je serais incapable de répondre en donnant le nombre exact de cartes.
Jacob, toi, pour toi
personnellement, c'est pareil, je ne saurais pas répondre, mais je pense que je dois bien être autour de minimum 200 ou 300.
D'accord.
J'imagine qu'à la maison ça va prendre de la place tout ça, parce que là tu évoquais, t'as une vie de père de famille, bon, quand on est jeune on se dit bon c'est pas grave, c'est il en fout plein partout, c'est pas bien grave, mais quand on est parent, on a ce statut de parent, on en met toujours autant partout?
Il y en a partout, oui et non, c'est à dire qu'on a une pièce un peu dédiée à ça, à tout ce qui est jeux vidéo, rangement de nos cartes, et c'est la pièce où on se retrouve avec les enfants et tout est bien rangé, bien classé, et on s'arrange, on essaye de s'arranger pour essayer d'évacuer, justement grâce aux bourses, d'évacuer un peu du stock, parce que sinon effectivement on n'en finit plus.
La vérité, ta fille elle avait pas le droit de rentrer dans cette pièce tant qu'elle avait pas compris qu'elle pouvait pas toucher à certains objets ou certains tiroirs.
Les auditeurs ne le voyaient pas, mais Maxence était en train de se marrer en disant ouais, exactement. La possession Pokémon dont tu es le plus fier, soit par la manière dont tu l'as eu, soit par la valeur émotionnelle qu'elle a. Je parle pas de financière, je parle de la possession Pokémon dont tu es le plus fier, la carte maîtresse ou l'objet maîtresse de ta collection perso.
Je dirais, j'ai pas forcément de pièce maîtresse, mais c'est plus une série. Alors c'est même pas le côté, comme vous le disiez, le côté financier, c'est vraiment le côté nostalgique en fait. C'est vraiment ça lance un peu le déclic de souvenirs en fait, étant enfant dans la cour de récréation. C'est vraiment ça en fait l'impact. Et ce qui est très drôle, c'est que j'ai une des séries que j'avais quand j'étais enfant, j'ai retrouvé 20-30 cartes à peu près sur cette série là et il y a peut-être 2-3 ans je me suis relancé pour vraiment la terminer. Donc c'est vraiment le côté vraiment nostalgique.
Elle a un nom cette série?
Ouais, c'est du bloc X, c'est la série Phantom Holo que je fais, qui prend du temps parce qu'effectivement il y a des cartes qui sont extrêmement chères dedans, mais ça prendra le temps que ça prendra. Et puis
voilà. Mais t'auras ta série?
Ouais, j'aurai ma série, il n'y a pas de souci.
Jacob, toi, il y a une carte, une possession Pokémon, parce que je sais que t'en as aussi pas mal, il y a une possession Pokémon qui te tient plus à cœur qu'une autre, et comme je disais, pour différentes raisons, ça peut être par la façon dont tu te l'es procuré, par le souvenir qu'elle renvoie, par la valeur de comment elle est puissante, je sais pas. Est-ce qu'il y a une possession Pokémon dont t'es plus fier?
Actuellement, ce n'est plus qu'à une époque, j'aurais peut-être répondu quelque chose, mais maintenant non, je me suis totalement désintéressé de ce genre de choses et j'arrive plus à trouver ou à estimer quelque chose qui pourrait faire vibrer quelque chose en moi.
Ouais, c'est ça, c'est-à-dire qu'au moment on est passé à ça prend de la place et puis après c'est tout ou rien quoi, sinon ça marche pas quoi. Ça, on peut plus être à moitié Pokémon, on est totalement ou pas du tout.
Je peux comprendre un peu le fait de se désintéresser, parce qu'on a beaucoup de personnes dans notre entourage qui se désintéressent vraiment du Pokémon. Pourquoi? Parce que à cause des scalpers, comme on disait tout à l'heure, sur toute la spéculation qu'il y a autour des cartes et les stocks qui sont très difficiles à obtenir pour le coup. Et on appelle ça aussi, c'est le taux de drop, c'est-à-dire le taux de drop. En gros, c'est le ratio sur un paquet de cartes d'avoir une carte extrêmement rare. On va avoir certaines séries, on va devoir dépenser des milliers d'euros pour avoir une carte, on va dire, exceptionnelle. Donc ça peut refroidir énormément de personnes et faire arrêter aussi certaines personnes.
Parce que moi j'ai l'impression que si on est total Pokémon ou on l'est plus, mais on n'est pas entre deux quoi.
Ouais,
c'est on l'a mangé, on en mange ou on n'en mange pas quoi.
Ouais, c'est un peu ça, c'est difficile de rester au milieu, c'est vraiment on reste dedans. Nous on a l'avantage, étant un couple, on est systématiquement dedans avec les enfants, donc puis on profite de vraiment tous ces événements là pour rester dans cet univers. Donc même si c'est pas que de la collection, il y a du partage avec les gens, on discute, on s'intéresse, et c'est ça qui est sympa.
Eh ben merci beaucoup Maxence,
merci
d'avoir partagé cette passion Pokémon et toutes ces petites astuces qu'on a découvert en ta compagnie. Nous sommes toujours en direct en live en public de la Pop and Geek au gymnase de Conchandouche. Merci Maxence, il va retrouver ses collègues sur le stand Pokémon. Nous on repart en musique, peut-être un titre complet. Non, tu voulais remettre du générique, c'est ça hein? Ben ouais, je sais. Ben oui, quand on aime, on compte pas. C'est ça, ben voilà, c'est plus fort que lui. C'est plus fort que lui.
d'une émission principe actif. Une rediff, quoi.
Ouais, Damien, il me disait, ça c'est Mario, là, quand on arrivait. Effectivement, vous êtes en train d'écouter un medley réalisé par les petits Jésus voyageurs autour du jeu vidéo de manière générale. D'ailleurs, pour info, ils jouent ce soir à la Brasserie Sport sur Gravigny, si vous voulez les voir dans leur forme plus générale. Nous sommes toujours en direct, en live et en public de la Pop and Geek 4e édition qui se déroule sur le gymnase de Conchornouche, où rejoignez-nous, en fait, c'est là où ça se passe ce week-end, tout simplement. Et nous avons avec nous Sofiane Le Geek. Sofiane Le Geek, on va dire youtubeur spécialisé en manga et même, je peux aller plus loin, en Dragon Ball. Également scénariste d'un manga autour de l'univers de Dragon Ball, Saiyan Origin, si je dis pas de bêtises. Sofiane, voilà.
Exactement.
Il est avec nous. Bonjour. Exactement. À toi. J'ai dit que t'étais speaker, enfin que t'étais animateur aussi de l'événement. Je sais plus si je l'ai dit, mais t'es aussi animateur de l'événement.
Tu l'as pas dit, on peut le dire.
Mais voilà. On peut le dire également. J'ai envie de rentrer directement dans cette notion de manga, dans cette notion aussi de youtubeur. Tu es aujourd'hui sur le devant des youtubeurs manga qui proposent, qui échangent autour de ça. Il y a une réelle communauté qui existe autour du manga. Dans quel univers mangaïstique toi tu navigues? Parce qu'il y a plein de choses dans le manga. En fait, c'est énorme cette culture manga. Dans quel univers plus spécifiquement toi tu navigues?
Bien sûr, alors effectivement il y a pas mal de thématiques au sein même des mangas. On a des seinen, on a des shonen. Des seinen, ce sont des mangas beaucoup plus hard, beaucoup plus trash, tandis que les shonen, on va suivre un héros qui va essayer de réaliser ses rêves. Et moi je suis plus dans le côté shonen, donc c'est-à-dire comme Dragon Ball, Naruto, One Piece, tout ce type de manga. Et c'est pour cela que je me suis spécialisé dans Dragon Ball, parce que c'était mon enfance. Depuis l'âge de 6 ans, j'ai découvert ça au Club Dorothée, voilà, sur TF1 à l'âge de 6 ans. Aujourd'hui j'en ai 39 ans, donc une passion qui me suit depuis 33 ans. Et j'avais envie, voilà, de me mettre sur les réseaux, ça va faire un peu plus de 8 ans maintenant, à la fois sur YouTube, TikTok et plein d'autres encore, pour pouvoir partager en fait cette passion que j'avais depuis gamin, et surtout voir cette nouvelle génération qui s'intéresse à tous ces mangas et qui se pose des questions: comment on en est arrivé à là aujourd'hui, d'où vient en fait toutes ces conventions qu'on peut voir, comme par exemple la Pop and Geek, qui a une naissance. La naissance était le Club Dorothée.
Oui, c'est ça, il y a tout un passage, il y a toute une génération qui a suivi tout ça. Quand tu parles de Dragon Ball, j'ai l'impression quasiment que c'est une histoire sans fin, que c'est un puits sans fond, avec toutes les variantes, le DBZ, le DB, tout cet univers, toute cette ramification. Est-ce que ça continue à produire, alors en dehors de Saiyan Origin, dont on parlera tout à l'heure parce que tu es scénariste de ce manga là, mais est-ce que ça continue à produire, et comment est-ce qu'on reste cohérent dans cet univers quand il y a autant de production?
Alors effectivement, à l'époque on avait eu Dragon Ball, premier du nom, avec le personnage Goku qui était enfant. Ensuite on a eu l'animé Dragon Ball Z, où il avait grandi, était devenu adulte, père de famille. Et à la suite de cela, on a eu ensuite Dragon Ball GT, où il est devenu grand-père. Et maintenant, on a Dragon Ball Super, qui vient toucher à toute cette nouvelle génération. Et tu as mis le point là où il fallait. Comment on fait pour devenir cohérent dans toutes ces histoires? Eh ben, c'est qu'aujourd'hui, en fait, ils ne le sont plus. Ils ne sont plus.
Ah oui, c'est complètement incohérent.
Non, vraiment, aujourd'hui, avec Dragon Ball Super, en fait, ils nous ont fait comprendre que, voilà, Toriyama, Akira Toriyama, qui nous a quittés malheureusement.
Qui est l'auteur
original.
Dragon Ball, ouais.
Voilà, l'auteur originel. Il a délégué cela à Toyotaro, qui s'occupe de Dragon Ball Super. Et il lui a laissé carte blanche, c'est-à-dire que Toyotaro, pour lui, avec l'accord de Toriyama de son vivant, avant qu'il nous quitte, ils avaient décidé que Dragon Ball Super allait être une suite alternative. Donc c'est-à-dire une timeline différente, comme si on était dans un futur différent. Ce qui lui permet en fait d'avoir carte blanche, et du coup on a des incohérences. Si on doit essayer de tout recoller aux 42 tomes originels de Toriyama, les tomes, les mangas. Mais en revanche, si tu fermes les yeux et tu te dis je me déconnecte, je regarde à nouveau, je découvre une nouvelle œuvre, là ça reste cohérent.
Ah oui, ça reste cohérent quand on redécouvre, parce qu'il y a ça, voilà. Aussi, enfin, il y a la cohérence de l'histoire, mais il y a la cohérence de l'univers aussi, et de l'ambiance. Et là ça va, sur l'ambiance et l'univers, on est ça va.
Voilà, c'est ça, au niveau de l'ambiance, l'univers, les transformations, les bagarres qu'il peut y avoir, là on est bon, là-dessus il n'y a aucun problème.
sur alors justement j'arrive à toi, tu t'es approprié aussi cet univers de Dragon Ball, tu es sur un manga dont tu es scénariste, c'est Saiyan Origin. Alors pareil, comment ça se passe de rentrer de quand on veut être scénariste d'une nouvelle extension de Dragon Ball?
Alors déjà c'est beaucoup de travail, même beaucoup plus que ce que je ne l'avais imaginé. Moi en revanche j'ai pas voulu faire une suite, je suis parti dans le passé, un préquel en fait. C'est-à-dire que
avant Dragon Ball, l'origine, quoi, l'original, ouais,
t'es... totalement. D'accord. Je suis parti avant Dragon Ball. On connaît le héros Goku. Moi, dans mon manga, il n'y a pas Goku. Il y a le père de Goku. Il y a également le Vegeta, qu'on voit adulte. Et bien, du coup, là, il est enfant. Et on y découvre sa mère et son père également. Donc, en fait, j'ai voulu écrire une histoire, un scénario qui tenait la route avec le manga originel de Toriyama. C'est-à-dire, moi, j'ai pas voulu faire une suite alternative qui ne tient pas la route. J'ai fait une suite qui est en raccord avec ce que l'auteur Akira Toriyama avait fait. Donc voilà, j'avais écrit pendant des mois et des mois, et ensuite avec mon équipe, voilà, on s'est retroussé les manches, on a travaillé et on a fait un tome qui retrace les origines des Saiyans, donc Saiyan Origins. Pourquoi? Parce qu'en fait, Saiyan, c'est la race de Goku, c'est un extraterrestre qui vient d'une autre planète. Et du coup, ça traite justement tout le lore de toutes ces races, avec ses parents, avec l'antagoniste Freezer qui avait manipulé les Saiyans à cette époque-là. Et on apprend beaucoup plus de choses, et surtout, il y a des subtilités, parce que dans Dragon Ball, on voit des attaques, on voit des pouvoirs, etc. Et bien du coup, je donne naissance à la création d'où viennent ces pouvoirs. Voilà, il y a des choses qui sont racontées justement.
Quand on écrit autour de Dragon Ball, j'imagine que les gens ont un regard là-dessus, ils sont attentifs, oui. On te dit t'as pas le droit, t'as le droit, tu peux pas, parce qu'en fait tu t'inscris en plus dans une genèse de l'histoire. Donc est-ce qu'il y en a d'autres qui l'ont déjà fait par exemple ça? Et surtout, comment est-ce que tu es observé par la communauté Dragon Ball?
Alors effectivement, les Dojinshi, je ne suis pas le seul à l'avoir fait, il y en a eu plein d'autres, hein, des Dragon Ball Kakumei, Multiverse, etc. Enfin même partout dans le monde, et même en allant au Japon, je me suis déjà déplacé à plusieurs reprises au Japon, il y a des magasins spécialisés justement pour les Dojinshi, des préquels et même des histoires alternatives de Dragon Ball. Donc là-dessus, je n'ai rien inventé. En revanche, au niveau de l'histoire, honnêtement, hein, j'ai pas envie de me gonfler les chevilles, ce qui ressort de la communauté, c'est que je suis certainement l'un des seuls mangas préquels qui tient la route avec les 42 tomes de l'auteur lui-même, qui ne dénaturise pas ce que l'auteur avait fait. Parce qu'il y en a, voilà, ils vont vouloir mettre leurs propres petites touches avec des transformations qui, par exemple, n'existaient pas. Et du coup, bah, ça ne reste pas cohérent avec ce que l'auteur avait fait. Non, moi j'ai repris vraiment tout ce qui existait déjà. C'est pour ça que j'ai voulu retourner dans le passé pour ne pas inventer quelque chose qui n'existait pas. J'ai voulu rester avec ce qu'on connaissait de l'univers Dragon Ball, et franchement ma communauté ont été au top du top, ils ont accueilli ça à bras ouverts. Pour te dire, 99% ont vraiment aimé l'histoire, donc c'est cool.
Pour le moment il y a un tome
et ça restera juste
un tome.
Ouais, c'est un one-shot. Ouais. One-shot de 236 pages qui traite justement les origines des Saiyans. Parce que plus tu vas vouloir faire de tomes, forcément au bout d'un moment tu vas aller dans l'incohérence. Et j'ai pas voulu ça.
Sachant que c'est une des particularités du manga, c'est les séries à 50 tomes, 60 tomes, 120 tomes. Oui, enfin, One Piece, là on les compte même plus.
One Piece,
ouais. C'est quand même une spécialité du manga, le nombre de tomes.
Ah oui, clairement, surtout dans les shonen. Donc ouais, comme One Piece, 114 tomes, on a même eu les chiffres qui sont tombés il y a de ça deux jours. 600 millions d'exemplaires vendus dans le monde, c'est énormissime. C'est le manga qui a fait le plus de ventes dans le monde entier. Je pense qu'on se rend compte. Et ensuite, juste après, Dragon Ball, qui a entre 400 et 500 millions. Mais enfin, franchement, c'est une folie. C'est vraiment une folie.
C'est voilà, un truc qui fonctionne. La recette, pourquoi ça fonctionne? Toi qui es un spécialiste quand même de cette culture geek, quand on dit c'est Sofiane le geek avec nous, il est geek, Sofiane, quand même, non?
Effectivement, oui, voilà.
Qu'est-ce qui fait que la recette fonctionne sur un Dragon Ball? Pourquoi ça continue? Je sais pas, c'est une trentaine d'années d'existence, un truc. Alors, comme ça, même plus d'ailleurs. Oui, hein, plus. J'ai des bêtises.
Depuis 1984, en fait ça a 40 ans. Ça a commencé le 21 novembre 1984, la première parution dans le Shonen Weekly Jump au Japon. C'était la première parution du tout premier chapitre de Dragon Ball. Et depuis, ça n'a jamais cessé. La hype est toujours restée présente. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, Akira Toriyama, à l'époque, il a été précurseur. Il avait trouvé une formule qui n'avait jamais été faite auparavant. Il s'est beaucoup inspiré des films des arts martiaux, c'est-à-dire Bruce Lee, Jackie Chan, les films Jurassic Park, Terminator, en fait tout ce qui fonctionnait bien dans le cinéma, plus tout ce qui fonctionnait bien dans les arts martiaux. Il a fait un mix de tout cela et on a découvert une œuvre qu'il a créée de toutes pièces avec des innovations. Des choses, c'est-à-dire le petit garçon Goku qu'on suivait quand il était enfant, lui il a pris le risque, c'était un des seuls mangaka à le faire, dire il va devenir grand. Son éditeur qui était Monsieur Torishima à l'époque a dit ouais mais attention, on prend un risque parce que les fans sont habitués à un petit garçon, tu vas le faire grandir, ils vont délaisser l'œuvre. Il a dit non non, moi je veux aller dans cette direction. Et il a bien fait, même les transformations, ça a été le mangaka précurseur où on a un personnage qui a les cheveux noirs qui va s'énerver, ils vont se redresser, ils vont avoir une chevelure d'or. Le Super Saiyan, ça a été révolutionnaire. Même Sonic s'en est inspiré de tout cela. Donc en fait, Dragon Ball, aujourd'hui, a réussi à marquer son empreinte de par ses innovations faites par le mangaka Toriyama.
Jacob. Je tiens à préciser que Akira Toriyama n'a pas inventé le système de transformation. C'était quelque chose qui était déjà présent. C'est juste qu'il a contribué à sa popularisation.
Alors effectivement, il a contribué à sa popularisation, mais la transformation iconique aujourd'hui dans les mangas que tout le monde retient et qui a été reprise à plusieurs reprises d'ailleurs dans les mangas, c'est le Super Saiyan. Effectivement, on avait par exemple des transformations dans d'autres petits mangas avec Astro Boy, le petit robot qui était déjà un shonen précurseur. On a eu du Goldorak, etc. Mais la véritable transformation du protagoniste qu'on suivait, qui change de couleur de cheveux, de comportement également et de caractère, ça a été Dragon Ball qui a ramené vraiment cette flamme. Voilà.
Sur toute cette culture geek, tu le disais, Sofiane, bientôt 40 ans. Bon, et Sofiane, au bout d'un